grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Imaginez un instant que vous vivez à l'époque du Christ. Vous avez eu l'occasion de parcourir la Galilée et la Judée, mais aujourd'hui, vous vous trouvez à Jérusalem, au milieu de la foule, alors que Jésus comparaît devant Pilate. Allez-vous demander la libération de Barabbas et la crucifixion du Christ, comme la majorité de votre entourage? Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie, par jalousie, qu'ils avaient livré Jésus. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Alors je répète ma question. Si vous aviez été présent à Jérusalem pour ce triste événement, auriez-vous demandé la crucifixion du Christ ? Je suis persuadé que vous seriez nombreux à répondre non à cette question. La plupart sont persuadés qu'ils n'auraient pas réclamé la crucifixion de Jésus, et c'est peut-être ce que vous croyez vous-même. Mais n'en soyez pas aussi sûr. Je m'explique. Lorsqu'il débuta son ministère, le Christ étonna ceux qui l'écoutaient. Non par son apparence, ou parce que le timbre de sa voix était inhabituel, mais ils étaient étonnés par son enseignement et par les miracles qu'il accomplissait. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Si vous avez vécu à cette époque-là et dans ce pays-là, vous auriez probablement été étonnés, vous aussi, en entendant l'enseignement du Christ. Pourquoi ? Parce que tout être humain, lorsqu'il vient au monde, dépend de ses parents pour la nourriture, pour les soins et pour son éducation. Il est élevé et enseigné dans les croyances et les coutumes de son époque. Vous auriez vécu comme votre entourage, comme c'est le cas pour tout le monde à toutes les époques. C'est que la société accepte et pratique semble naturel et fait partie du mode de vie. Il en était déjà ainsi à l'époque du Christ. Si vous aviez été contemporain du Christ, vivant en Palestine, vous auriez entendu cet homme de Nazareth affirmer des principes différents de ce que vous aviez souvent entendu et considéré comme étant la vérité. Vous l'auriez entendu expliquer les Écritures d'une manière bien différente de ce qui vous avait été enseigné depuis votre enfance. Mais ce qu'il disait vous aurait peut-être semblé sensé, logique et plausible. C'est sans doute pour cela que certains le rejetaient. Ils avaient du ressentiment à son égard, car ils savaient au fond d'eux que ce qu'il disait était la vérité, que ses dires correspondaient aux Écritures, et cela les obligeait à reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur depuis longtemps. Rien ne blesse plus la vanité d'un homme que de devoir constater et admettre qu'il s'est trompé, qu'il s'est laissé abuser, entraîner dans des croyances erronées. C'est humiliant de devoir le reconnaître, et beaucoup ne peuvent s'y résoudre. On a trop souvent la conviction que toutes ces dénominations religieuses qui sont reconnues dans la société du pays où l'on vit, qui sont si estimées, ne peuvent avoir tort. Après tout, la grande majorité pourrait-elle avoir tort ? Cependant, l'enseignement que cet homme de Nazareth transmet semble étrange à première vue, bien que logique et raisonnable. Impossible de réfuter ses arguments, de prouver qu'il est dans l'erreur. C'est alors que l'amour-propre en prend un grand coup. Cet homme que vous entendez expliquer toutes ces choses, est-il vraiment un prophète ? Est-ce bien la vérité qu'il apporte ? Quelle décision auriez-vous prise à l'époque pour savoir s'il apporte bien la vérité? Auriez-vous été vers les chefs religieux des grandes dénominations réputées et établies? Ces gens avaient certainement fait de grandes études. Ils étaient donc à même de donner un avis autorisé, d'exprimer une opinion valable. Ou alors, auriez-vous plongé votre regard dans les Saintes Écritures pour rechercher vous-même la vérité et la prouver avec un esprit ouvert, en vue de la pratiquer et de ne plus vivre dans l'erreur, de ne plus vivre en marge de la volonté divine? Vous rendez-vous compte de ce qu'auraient pu vous répondre les dirigeants des diverses dénominations religieuses établies? Ils auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour discréditer Jésus. Ils vous auraient assuré qu'il n'était qu'un faux prophète, tout comme ils ont accusé ceux qui l'écoutaient. Tous ceux-là qui jouissaient d'une bonne réputation, qu'ils ne souhaitaient vraiment pas perdre, tous ces principaux sacrificateurs et ces anciens, non seulement voulaient discréditer Jésus, mais ils allaient jusqu'à conspirer pour le faire mourir. Voyons ce qui se passa lorsqu'un nombre croissant de personnes croyaient en Christ. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Après que Jésus eut pris la parole pendant la fête des tabernacles et du dernier grand jour, ceux qui l'écoutaient avaient des avis très partagés. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Voyons quelle fut la réaction des grands chefs religieux de l'époque. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduit par ce faux prophète ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» Ils affirment donc, « Si les hommes religieux importants et de bonne réputation ne croient pas en lui, alors vous non plus, dirent-ils aux huissiers, vous ne devriez pas croire en lui. » N'est-ce pas là un discours que l'on rencontre encore de nos jours? On dit, si vous ne croyez pas l'enseignement que nous, qui sommes reconnus et nombreux, dispensons, alors vous vous laissez emporter au vent de fausses doctrines. Mais Jésus, en parlant des siens, n'a-t-il pas déclaré, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Jésus savait que les siens ne seraient pas une majorité, mais bien une minorité. Les chefs religieux qui vécurent à l'époque du Christ poursuivent leur attaque en critiquant ceux qui le suivent pour entendre son enseignement et le voir réaliser des miracles. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen ?» Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Ses chefs, ses principaux, savaient qui était Jésus. En effet, lorsque Nicodème, qui était un chef des Juifs, un docteur de la loi, vint vers Jésus de nuit, il lui dit, « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il ne voulait pas admettre que leur enseignement s'était écarté de la parole inspirée de Dieu. Leur vanité les poussait à accuser celui-là même qui enseignait la vérité et qui démontrait par la même occasion leurs erreurs. Faut-il s'étonner si Jésus les traita d'hypocrites, de races de vipères, de conducteurs aveugles, et s'il leur adressa le reproche suivant « Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même » et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. ces grands dignitaires religieux conspirèrent et payèrent 30 pièces d'argent à Judas pour qu'il trahisse le Messie. Ce sont eux qui se moquèrent de lui. Ils le raillèrent alors qu'ils savaient qu'il venait de Dieu. Ce sont toujours eux qui poussèrent la foule à réclamer la mise à mort de Jésus par crucifixion et la libération de Barabbas. Si vous aviez vécu à l'époque du Christ, est-ce vers ces grands dignitaires religieux que vous vous seriez tourné pour leur demander si Jésus enseignait bien la vérité? Dans ce cas, vous auriez commis une grave erreur. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Démontrez par la Bible qu'un enseignement religieux s'oppose aux Écritures, qu'il s'écarte de la vérité, et vous serez immédiatement témoin d'une levée de boucliers. Paul prêchait le même message que Jésus. Par conséquent, son enseignement s'opposait aux croyances et aux coutumes courantes de son époque. Et il rencontra une grande opposition. On allait même jusqu'à le lapider. Mais tout le monde n'eut pas un tel rejet immédiat de son enseignement. Les Juifs de Bérée prirent la peine de vérifier ce que Paul affirmait. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Remarquez qu'ils ne cherchaient pas à prouver que ce qu'on leur disait était faux. Non, ils se sont mis à la recherche de la vérité, et ils ne se fièrent qu'à la parole inspirée de Dieu. Après tout, rien n'indiquait que Paul n'était pas un faux prophète. Voilà pourquoi ils vérifièrent avec un esprit ouvert, mais ils ne consultèrent pas les chefs religieux de leur époque, mais les Écritures. Ils vont vers la seule source fiable. Ils ne consultèrent pas des hommes qui ont de nombreuses raisons de protéger leur enseignement. Ils n'allèrent pas vers ceux qui critiquaient Paul. Ils se plongèrent dans les écrits qui ont été protégés par Dieu. Ces Béréens voulaient déterminer la vérité pour examiner toutes choses, afin de retenir ce qui est bon. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Que de changements dans le monde chrétien si chacun en faisait autant. On ne verrait plus toutes ces nombreuses dénominations qui diffèrent sur tant de doctrines, alors que toutes affirment se baser sur les mêmes livres, la Bible. Bien entendu, ces Juifs Béréens n'avaient pas le livre des Actes ni les Évangiles à leur disposition. Ces livres n'étaient pas encore écrits, mais ils possédaient les rouleaux du livre d'Ésaïe où nous lisons « à la loi et au témoignage », autrement dit « consultez la loi et consultez le témoignage ». Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point de lumière. Le peuple restera dans les ténèbres spirituelles. La Bible en français courant traduit ce passage comme suit. C'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Autrement dit, ce qui compte, ce ne sont pas les explications données par les hommes, des explications qui sont toutes sujettes à caution, mais uniquement les instructions du Seigneur, des instructions qui ne se trouvent que dans les Écritures. Je continuerai ce sujet la semaine prochaine.